Le journal, bonjour Emeline Ferry.
Bonjour avec, à toutes et à tous.
Avec à la une ce matin, l'armée française, donc une nouvelle fois endeuillée. Deux soldats morts hier au Mali, leur véhicule a été visé par un engin explosif. Dans le reste de l'actualité, Emeline.
6 millions de Français soumis à un couvre-feu avancé à 18h depuis hier, 15 départements concernés. On ira voir comment on s'organise dans les rues de Nancy. L'épidémie de Covid et cette fête sauvage qui fait les gros titres, une énorme rave party en Bretagne pendant plus de 36 heures, elle s'est arrêté hier. Plus de 1600 personnes verbalisées. Les Landes, toujours les pieds dans l'eau ce matin, après une crue impressionnante du jamais vu depuis 1843. Et puis le top départ du Dakar en Arabie Saoudite. Vous entendrez Stéphane Peter-Hansel, 31e participation et toujours autant d'envie.
Un mot sur l'invité ce matin. À partir de 8h20, il sera question de pop culture. Quand les séries télé nourrissent nos grandes questions philosophiques, on en parlera avec Marianne Chaillant, professeure de philosophie. Elle publie In Pop We Trust.
France Inter.
Donc deux militaires français tués hier au Mali.
Ils avaient 24 et 33 ans, le sergent Yvonne Huyn et le brigadier Loïc Risser. C'est la première fois qu'une femme de l'armée française est tuée au combat au Sahel. Ils appartenaient tous les deux au 2e régiment de hussards d'Agneau, près de Strasbourg, Nathalie Hernandez.
C'est lors d'une mission de reconnaissance et de renseignement dans la matinée, en dehors de la base opérationnelle de Ménaka, que le véhicule de trois militaires est touché par un IED, un engin explosif improvisé. Deux d'entre eux succombent à leurs blessures, le sergent Yvonne Huyn et le brigadier Loïc Risser. Le troisième soldat a été blessé, mais son état est stable, a précisé l'état-major des armées, et son pronostic vital n'est pas engagé. En moins d'une semaine, c'est la deuxième attaque subie par les forces de Barkhane. Lundi 28 décembre, trois militaires avait perdu la vie dans les mêmes circonstances et dans la même zone dite des trois frontières. Une zone dans laquelle les forces françaises concentrent leurs opérations depuis un an et dont Ménaka est la base essentielle. Elle accueille d'ailleurs Takuba, l'unité de forces spéciales européennes. Symboliquement, le coup est sévère à plus d'un titre. Quelques heures après l'attentat de Ménaka, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué celle de lundi dernier, dénonçant l'occupation française dans cette région du Sahel.
Et depuis 2013, 51 soldats français sont morts au Sahel.
Un couvre-feu donc renforcé pour 15 départements de l'Est, des Ardennes jusqu'aux Alpes-Maritimes.
Depuis hier soir, interdiction d'être dans les rues entre 18h et 6h du matin, sauf exception. Un véritable casse-tête pour certains habitants. Il faut revoir toute son organisation, se dépêcher pour être à l'heure chez soi. Alors hier, en fin d'après-midi, c'était un petit peu la course contre la montre dans les rues de Nancy. Le reportage de Léo Limon de France Bleu Sud-Lorraine.
Bon bah on remballe, alors on range.
17h15, place du marché à Nancy. Olivier doit maintenant ranger son stand de maroquinerie une heure plus tôt.
Habituellement, nous remballons à partir de 18h. Ma foi, il faut faire avec, suivre les instructions qui nous sont données de façon à ce qu'on se débarrasse au plus vite de cette cochonnerie de virus.
Casque de son scooter déjà sur les oreilles, il se dépêche de rentrer, les bouchons commencent déjà à se former.
Faut qu'on rentre, on a quand même la route à faire c'est vrai, c'est un peu la course quoi, on voit tout le monde rentrer, toutes les voitures, ça bouchonne. Bah vu comment ça bouche, je pense que même une demi-heure là ça suffira pas.
Un couvre-feu qui sonne comme une course contre la montre pour être dans les temps.
On a du poisson à acheter, du vin et on est de l'autre côté de la pépinière, c'est la galère parce que c'est tôt, c'est stressant, c'est pénible quoi.
Couvre-feu à 18h et un véritable casse-tête d'organisation, notamment pour faire les courses.
De lundi à samedi, je travaille. Pour les courses, j'ai trois enfants à charge totale. On essaye de faire avec, hein. Soit c'est pendant les pauses, ou c'est pendant juste avant de commencer le travail, si les magasins ils ouvrent. C'est un tout, c'est complètement en fait une vie complètement différente.
En Meurthe-et-Moselle, il sera possible de faire ses achats le dimanche. La préfecture autorise l'ouverture des commerces les dimanches de janvier.
Un couvre-feu donc pour renforcer, pour tenter d'endiguer la deuxième vague du virus, alors que le plateau de l'épidémie se confirme. Le nombre de malades en réanimation est en légère hausse dans le pays. 100 nouvelles admissions en 24 heures. On recense aussi un peu plus de 3400 nouveaux cas de contamination. Un chiffre en baisse, mais de nombreux laboratoires sont fermés depuis plusieurs jours.
Plus de 1600 personnes verbalisées après l'immense fête clandestine en Ille-et-Vilaine.
La rave party sauvage s'est terminée hier. Près de 2500 fêtards étaient réunis dans un hangar désaffecté dans le village de Lieuron pour fêter le réveillon pendant deux jours. Et ce matin, 8 personnes sont en garde à vue, Evan Le Bastard, dont 2 jeunes de 22 ans soupçonnés d'être à l'origine de la fête.
deux organisateurs présumés et sans antécédent judiciaire. Ils ont été interpellés samedi après-midi à Ifindic, soit à 35 km au nord du lieu de la rave party. Ils avaient réussi à échapper à la vigilance des gendarmes, pourtant présents en nombre autour de l'événement. Les forces de l'ordre ont saisi une somme d'argent qui semble provenir de la caisse de la Free Party, des stupéfiants, mais aussi du matériel, 16 enceintes de murs de son, des platines et des groupes électrogènes notamment. Les deux personnes ont été placées en garde à vue. Le procureur de la République de Rennes annonce par ailleurs qu'il y a eu plus de 1600 verbalisations pour l'ensemble de l'événement, en très grande majorité pour non-respect des règles Covid, mais aussi pour consommation de stupéfiants.
Les précisions d'Evan Le Bastard de France Bleu Armorique. Un hommage à Cédric Chouvia, un an après la mort de ce chauffeur-livreur de 42 ans lors d'un contrôle de police. Sa famille et ses proches organisent une marche blanche cet après-midi pour demander la suspension des 4 policiers mis en cause. Ils sont mis en examen pour homicide involontaire. La coordination contre la proposition de loi sécurité globale rejoindra le cortège cet après-midi. Dans les Landes, la décrue a commencé, mais elle va être très lente. Le département est touché par des niveaux de crue historiques avec les fortes pluies liées à la tempête Bella. L'eau a dépassé les 4 mètres dans certaines rues, notamment à Tartas, où au moins 150 maisons sont sinistrées. La commune connaît des inondations à répétition, mais cette fois-ci, l'eau bourdie, c'est du jamais vu depuis 1843.
Bottes aux pieds et parfois carrément en combinaison intégrale, les habitants de Tartas se déplacent comme ils peuvent dans les rues inondées. À l'intérieur des maisons de cette rue proche de la Midouze, l'eau a envahi les cuisines, les salons et les couloirs. On a de l'eau carrément jusqu'aux hanches, du jamais vu pour ses habitants.
Mais elle arrive dans la Midouze, elle traverse la maison et elle ressort par les portes sur le côté. Là. Mais cette nuit, ça a déjanté, j'ai un frigo qui a touché la flotte. Hein.
Julio, habillé d'une combi intégrale, est un habitué des crues.
Ça a été inondé en 52, ça a été inondé en 81. Mais là, c'est vraiment là. Ouh, la cata. Hein.
Vous habitez à la rue là?
Voilà, à gauche là. Maison bleue là.
Juste en face de sa maison bleue, de l'autre côté de la rue qui ressemble désormais à celle de Venise, il y a Patrick qui prend la navette fluviale pour rendre visite à sa mère, dont la maison est inondée.
Chez ma mère, oui, et puis moi je pense que je l'ai dans le magasin 10 cm. Ouais, tu t'imagines, incroyable, incroyable.
Ce commerçant a dû fermer boutique à cause de l'eau qui s'y est infiltrée. Il ne pensait pas vivre ça plusieurs fois dans l'année.
Début décembre, il n'avait pas plu, il avait fait beau tout le mois de novembre. 2 jours de pluie. Elle était déjà sur les quais.
Pour l'instant, la crue de janvier 1843 est la plus forte jamais enregistrée à Tartas, avec 4,80 m.
Reportage de Lou Bourdi de France Bleu Gascogne dans les rues de Tartas.
C'est du sport. Le Dakar 2021 va s'élancer aujourd'hui en Arabie Saoudite.
286 véhicules en course qui vont partir de Jeddah, le plus grand port de la mer Rouge, pour la première étape. Plus de 600 km à parcourir aujourd'hui vers le sud du pays. Pour le pilote franc-comtois Stéphane Peter Hansel, c'est un Dakar de plus qui démarre son 31e. À 55 ans, le pilote est le recordman des victoires, 6 en moto et 7 en auto, mais il ressent toujours la même émotion sur la ligne de départ.
Aujourd'hui, moi, si je continue à faire le Dakar, c'est parce que c'est probablement une des dernières courses de motorsport qui nous permet d'évoluer dans un milieu complètement 100% naturel, au milieu des paysages fantastiques. Je suis toujours aussi enthousiaste, sauf que je pars plus dans l'incertitude. Je maîtrise quasiment tous les sujets. C'est ça la grosse différence. C'est une course qui demande de prendre sur soi énormément. J'y vais en m'y préparant pour le mieux d'année en année. Mais il y a toujours une approche avec une excitation et un peu de stress. C'est jamais un c'est-à-dire qu'on ne prend jamais le départ de Dakar comme on va faire du shopping et on part quand même malgré tout toujours un petit peu dans l'inconnu.
Stéphane Peter Hansel au micro de Jean-Pierre Bimeau. Un mot du Vendée Globe, Yannick Bestaven et Charlie Dalin font toujours la course en tête. Ils ont franchi le mythique Cap Horn dans une mer très agitée. On en parle tout à l'heure dans Esprit Sport à la fin du journal de 8h.
C'était le journal d'Emeline Ferry.